jusqu'à 20h sur Europe 1. Bienvenue hein, si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy, et la suite du programme.
L'interview politique, Aurélie Herbemont qui reçoit ce soir le président de la région Grand Est et ex-urgentiste Jean Rottner, qui, parce que la crise évidemment est là, a enfilé de nouveau sa blouse blanche hein, pour aider. 19h20 demain en France, demain dans le monde, avec un robot Made in France pour accompagner nos aînés, et Dieu sait qu'ils en ont besoin. À 19h30, la galère et la colère des associations en temps de pandémie. On va donner la parole au Resto du Cœur, Secours Populaire, la Croix-Rouge, entre autres, et on vous attend au 3921 et aussi sur les réseaux sociaux, hashtag Radio ouverte.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Oui, il y aura un baccalauréat. Mon premier objectif, c'est de garantir à tous les élèves de terminale qu'ils ne soient pas lésés, qu'ils ne perdent pas une année et qu'ils puissent passer un baccalauréat.
C'était sur Europe 1 ce matin. Jean-Michel Blanquer maintient le bac après le confinement. Mais comment, sous quelle forme? Les informations de Virginie Salmen dans quelques secondes.
À la veille d'une troisième semaine de confinement, l'épidémie continue de gagner du terrain. La Moselle sonne l'alerte, la Corse également sous tension.
Dans ce journal aussi, les employés à domicile peuvent également bénéficier du chômage partiel. Ménage, garde d'enfants, attention, si vous êtes particulier employeur, c'est à vous de faire la démarche, on vous donnera le mode d'emploi.
Et on ira à New York, où les hôpitaux sont déjà saturés et un navire militaire arrive en renfort.
Et puis elles font polémique en plein scandale sexuel. Les mémoires de Woody Allen sortiront bien en France au mois de mai.
Et la tendance météo d'Anissa?
Alors demain, nous aurons beaucoup de vent sur toute la moitié nord du pays. Et puis ça se calme dans le sud. On va retrouver enfin le soleil. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Le bac aura bien lieu comme prévu à la fin de cette année scolaire qui n'aura pourtant rien de normal. C'est Jean-Michel Blanquer qui en a fait la promesse ce matin sur Europe 1. Pas question de léser les élèves de première et terminale, pas question non plus d'en abaisser le niveau. Alors Virginie Salmen, qu'est-ce qui est envisagé? Ce qui est sûr, c'est que l'examen va devoir être adapté.
Oui, il y aura bien un diplôme du bac cette année. Il n'est pas question d'annuler l'examen, mais y aura-t-il des épreuves sur table ou un simple contrôle continu? Tous les scénarios sont envisagés. Ils font l'objet de discussions ces jours-ci par visioconférence entre le ministre et les représentants des professeurs et des parents d'élèves. Sans bras de fer, pas d'opposition ministre-syndicat dans la crise. Mais tout dépend de la date de reprise des cours, qui est inconnue. Si c'est début mai, comme prévu, nous dit Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES, voilà les options.
Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Celles qui reviennent assez souvent, c'est une ou deux épreuves qui pourraient avoir lieu fin juin, des épreuves par exemple écrite, et ça pourrait être par exemple les matières dominantes d'une série.
En revanche, si le confinement doit durer par exemple jusqu'en juin, il sera impossible d'organiser les épreuves. Le scénario d'un bac 100% contrôle continu est sur la table, avec des notes des premiers et deuxièmes trimestres, peut-être même de la classe de première, mais certainement pas les notes obtenues pendant le confinement, trop inégalitaires de la vie générale.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Nous entamerons demain la troisième semaine de confinement et l'épidémie continue de gagner du terrain en France. Dans le Grand Est, notamment, c'est en Moselle que les autorités de santé ont lancé l'alerte. Vous entendiez dans le journal de 18h la directrice de l'hôpital de Mastionville.
Oui, ces services de réanimation sont déjà saturés. Elle demande de pouvoir transférer certains de ses patients ailleurs. Des transferts qui s'enchaînent. Ils ont permis de désengorger ces derniers jours les hôpitaux d'Alsace. 6 patients ont été emmenés encore aujourd'hui par hélicoptère militaire de Strasbourg vers la Suisse et l'Allemagne. Et c'est maintenant en Corse que les médecins s'inquiètent. État d'urgence absolu, dit un collectif de praticiens qui réclame des mesures, notamment pour mieux dépister les malades. Écoutez le professeur Antoine Aiello. Il dirige justement un laboratoire et il préside le collectif anti-Covid Corsica.
Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est accompagner le médecin en faisant un test qui lui permettrait avec certitude de savoir que son patient et Covid plus ou pas, et éviter la propagation, y compris au niveau des cellules familiales ou des environnements proches. En Corse, on est encore plus fragilisé parce que la Corse, c'est 30% de personnes âgées, parce que on a un système de santé avec deux hôpitaux et un hôpital de petite taille à Corté. Et vous voyez bien que pour 300 000 habitants répartis dans des villages, dans des zones peu accessibles, le test est sans doute une des meilleures armes dont on dispose pour isoler dès qu'on trouve un foyer. Et j'espère que les tests que l'on fera pourront se massifier. Je lance un appel urgent. On a besoin de kits de prélèvement. Ces écouvillons que vous voyez assez régulièrement sur les images pour les prélèvements au niveau du nez, pour des prélèvements de salive. S'il y a des gens qui ont des stocks et s'ils peuvent nous en donner, on se charge du transport, on se charge de l'achat, on paye tout. Mais c'est très urgent.
Propos recueillis par Frédéric Michel. 22 décès comptabilisés à ce stade en Corse, dont un premier dans un EHPAD ce week-end.
Les tests qui font défaut en France, les masques aussi, mais qui commencent à arriver. Hein, malgré tout, une deuxième cargaison a atterri par avion en provenance de Chine. Aujourd'hui, 10 millions de masques de protection. Un cargo a atterri sur l'aéroport de Vatry en Champagne, sous très haute sécurité. Les rotations doivent se poursuivre avec la Chine.
Oui, des masques qui manquent aux soignants, mais aussi à tous ceux qui continuent de travailler au contact du public. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de salariés de l'hypermarché Carrefour de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, ont exercé leur droit de retrait. Ils ne s'estiment pas suffisamment protégés. Plusieurs cas de contamination sont déjà apparus au sein du personnel du magasin. Ce soir, le gouvernement dit vouloir fabriquer en France 500 000 masques non sanitaires par jour, grâce notamment à l'appui de l'industrie textile, des masques qui seraient justement destinés à ce type de salariés. Attention, écoutez bien à présent, si vous faites appel habituellement à un employé à domicile, pour le ménage par exemple, ou pour la garde d'enfants, eh bien, ces employés vont pouvoir bénéficier eux aussi du chômage partiel. Ils pourront être payés 80% des heures qu'ils n'ont pas pu effectuer ce mois-ci à cause du confinement. Mais c'est à vous, particulier, d'en faire la démarche. Et ça commence aujourd'hui. Alors, Olivier Samin, expliquez-nous comment on doit s'y prendre.
Oh, la procédure est simple. Comme tous les mois, sur votre compte CESU ou page emploi, vous déclarez les heures que votre femme de ménage ou la nounou qui garde votre enfant ont réellement effectuées au mois de mars. Et dans une deuxième étape, vous accédez à un formulaire d'indemnisation exceptionnelle dans lequel vous allez déclarer les heures qui étaient prévues mais que votre femme de ménage ou votre nounou n'ont finalement pas effectuées. Sitôt cette étape enregistrée, le montant de l'indemnisation exceptionnelle que vous devez verser à votre salarié vous est indiqué. Ce montant, il correspond à 80% du salaire net des heures non effectuées. Il vous suffit de payer cette somme à votre salarié, en plus du salaire qu'il a touché pour les heures qu'il a réellement effectuées. Vous recevrez alors un mail vous informant que l'opération a bien été enregistrée et vous serez remboursé de cette somme, ces fameux 80%, sur votre compte dans un délai de 15 jours. Alors, précision importante, cette somme n'est pas soumise à cotisations ou prélèvements sociaux et elle n'ouvrira pas droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile, ce qui est logique puisque l'État vous la rembourse.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Un quart des marchés alimentaires vont pouvoir rouvrir à travers la France, mais sous conditions sanitaires strictes. C'est le résultat des dérogations accordées lorsque ces marchés sont de petite taille et que les commerçants peuvent être espacés. Et puis autre annonce qui concerne cette fois Paris, certaines zones des bois de Vincennes et du bois de Boulogne vont désormais être interdites à la circulation en raison d'un trop grand nombre de personnes qui ne respectent pas, toujours pas, les règles du confinement.
Et on va maintenant regarder vers le reste du monde. 35 000 morts recensés, plus de 3 milliards d'habitants de la planète sont désormais confinés chez eux.
Moscou a pris à son tour des mesures, tout comme l'énorme mégapole de Lagos au Nigeria, 20 millions d'habitants confinés. Aujourd'hui, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé pour évoquer une coopération à la fois sur la lutte contre le coronavirus et sur les conséquences économiques, pour le pétrole notamment. Aux États-Unis, c'est New York qui inquiète particulièrement. Hein, Xavier Yvon, vous êtes sur place. L'afflux de malades est tel qu'un navire hôpital a été envoyé à Manhattan.
Oui, et c'est une image saisissante qui restera sûrement dans les livres d'histoire. Cet immense bateau militaire, tout blanc, avec ses croix rouges sur la coque, qui passe devant la statue de la liberté pour venir s'amarrer à Manhattan sur fond de skyline. Avec sa capacité de 1000 lits, le USNS Comfort vient soulager les hôpitaux de New York, saturés de patients atteints du coronavirus. Certains sont même laissés chez eux, faute de place. Autre image frappante, des grandes tentes blanches dressées dans Central Park. C'est un hôpital de campagne aménagé par une ONG chrétienne, comme dans une zone de guerre. Et c'est vrai que c'est l'impression qu'on a ici à New York. On a dépassé les 1000 morts et les décès s'accélèrent au point que des corps sont désormais conservés dans des camions frigorifiques. Une vidéo a beaucoup ému les New Yorkais ce week-end. On y voit un engin porte-palette qui dépose des corps enveloppés dans des sacs mortuaires dans l'un de ces camions réfrigérés.
Waouh, ça fait froid dans le dos, Xavier. Ils vont à New York et on reparle de cette épidémie mondiale avec tous les chiffres hein, sur notre continent et pas seulement d'ailleurs avec Didier François. C'est à 19h20 à peu près.
Et l'Italie, un pays le plus endeuillé au monde, enregistre de nouveaux signes encourageants aujourd'hui après 3 semaines de confinement. Alors il y a eu encore plus de 800 morts ces dernières 24 heures, ça fait 11 500 décès au total, mais la hausse des nouveaux cas positifs n'a jamais été aussi faible. En Chine, signe de la reprise progressive de la vie, notamment à Wuhan, Renault va y redémarrer son usine, tout comme celle située en Corée du Sud. Tous les autres sites du groupe à travers le monde sont toujours à l'arrêt. On connaît maintenant la date précise des futurs Jeux Olympiques de Tokyo. Ils s'ouvriront le 23 juillet 2021, soit un report d'un an, quasiment jour pour jour. Et tout le calendrier sportif va devoir s'adapter. Les mondiaux d'athlétisme sont décalés à l'été 2022. Ils devaient avoir lieu à l'été 2021. Les championnats du monde de natation vont eux aussi devoir changer de date.
Tout à fait autre chose maintenant, soit dit en passant, c'est le titre d'un ouvrage, celui des mémoires de Woody Allen, qui font polémique en plein scandale d'agression sexuelle.
Oui, ce qui a conduit l'éditeur américain à renoncer aux droits. Le livre a finalement paru aux États-Unis, mais par un autre éditeur. Et en France, il sortira chez Stock le 13 mai. Écoutez, Manuel Carcassonne, c'est le directeur général des éditions Stock.
À la suite des péripéties américaines qui ont déclenché tout un tollé contre ce livre de manière parfaitement injustifiée, puisque en l'occurrence personne ne l'avait lu, j'ai décidé de maintenir la publication en France. Ce livre est pour moi beaucoup plus qu'une défense de soi-même. 50 ans de rapport avec le cinéma, les femmes de sa vie, ses divorces parfois calamiteux comme celui avec Mia Farrow sur lequel il revient abondamment pendant 80 pages, mais c'est uniquement 80 pages sur 600. Ses rapports avec les acteurs, ses rapports avec les autres cinéastes, et au-delà de ça, bien au-delà du cinéma, une vraie vision de la vie. Je pense que ce livre est excellent et je me réjouis de pouvoir le donner à lire au public français le 13 mai.
Manuel Carcassonne, le directeur général des éditions Stock, qui répondait à Nicolas Caro.
Voilà, sorti le 13 mai hein, quand même. Merci Sébastien, on vous retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'info. Anissa, vous êtes là avec des brouillards demain matin?
Oui, sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, la Bourgogne, la vallée du Rhône, nous aurons des brouillards et puis surtout ce vent de nord-est qui souffle dès le lever du jour et puis qui va se généraliser sur toute la moitié nord dans l'après-midi avec des rafales qui atteignent les 80 km/h. Dans le sud-ouest, de la Gironde jusqu'aux Pyrénées, sur le Limousin et Languedoc-Roussillon, sur tout le littoral hein, finalement méditerranéen, le ciel est assez couvert. Sur les Alpes du Sud, le Golfe du Lion et la Corse, là les nuages seront même un peu plus épais. Et partout ailleurs, c'est un temps sec et très ensoleillé. Mais attention, ne vous fiez pas au soleil, il va faire froid demain matin. Avec moins 4 à Montluçon et Clermont-Ferrand, moins 2 à Aurillac et Saint-Étienne, 2 degrés pour Paris, Lille et Lyon, 4 à La Rochelle, 6 à Marseille, 10 à Nice. Et puis dans l'après-midi, nous aurons un léger redoux dans le nord, avec 10 à 13 degrés. Et il fera bien meilleur dans le sud, avec une moyenne de 14 à 17 degrés, jusqu'à 18 même dans le sud-ouest du côté de Carcassonne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Oui, avec dans un instant l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité du soir à distance,
Jean Rottner, président LR de la région Grand Est et ancien chef des urgences de Mulhouse. On parlera évidemment avec lui de la situation dans cette région particulièrement touchée.
On vous retrouve dans une seconde, Aurélie Herbemont, l'interview politique. Merci, c'est sur Europe 1 que ça se passe jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et 19h13, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Oui, avec Aurélie ce soir, votre invité Jean Rottner, l'ancien patron des urgences de Mulhouse et actuel président de la région Grand Est.
Bonsoir Jean Rottner.
Bonsoir.
Votre région du Grand Est fait partie des plus touchées par l'épidémie de coronavirus. L'Agence régionale de santé fait état hier de 816 morts depuis le début de cette crise, 3 940 personnes hospitalisées. Quelle est la situation ce soir?
Mais écoutez, je crois qu'elle est identique à celle de hier, malheureusement. Et elle sera identique, je pense, à celle de demain. C'est-à-dire que c'est notre quotidien maintenant depuis près de 4 semaines, c'est de vivre avec et au cœur même de cette épidémie. Elle est à la fois terrible par les chiffres, les proches qu'elle commence à toucher. On connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un ou même un proche qui est décédé ou qui en a été victime. Les pages de la presse quotidienne régionale aujourd'hui en termes d'annonces mortuaires sont trop nombreuses. Et cette épidémie nous touche particulièrement aujourd'hui. Elle touche toujours l'Alsace et elle se propage. La Moselle connaît de vraies difficultés du côté de Thionville. Les réanimations aujourd'hui sont pleines et la directrice et les professionnels du centre hospitalier de Thionville ont lancé un appel à l'aide cet après-midi. Je pense qu'il faut qu'on les aide. Là aussi, que les patients de réanimation puissent être transférés. C'est la seule condition possible pour continuer à accueillir de manière décente, sans perte de chance, les patients qui le nécessitent. C'est indispensable. C'est vrai que les ponts aériens qui existent aujourd'hui entre la région Grand Est et les autres régions de France sont absolument exceptionnels et je n'aurai jamais assez de mots pour remercier toutes ces régions. Merci également à la Suisse, à l'Allemagne et au Luxembourg qui nous ont aidés. Mais compte tenu de la densité de cas de réanimation ici dans la région, compte tenu effectivement de la densité de virémie que nous constatons, c'est la seule issue possible pour que nous puissions faire face de manière efficace.
Oui, Jean Rottner, vous le disiez, des patients ont déjà été évacués ces derniers jours. Pour vous, il faut poursuivre vos hôpitaux ces prochains jours, ne pourront pas faire face sinon ?
Je crois que oui, ils ne pourront pas faire face. La situation est extrêmement tendue. En Alsace, un certain nombre de situations ont pu être gérées, vous le savez, grâce à un pont aérien de l'armée, grâce à un hôpital de campagne. Mais cette épidémie se déplace et aujourd'hui, elle est présente, encore une fois, sur le nord de la Lorraine. Elle est présente dans les Vosges. Elle s'approche petit à petit de la Champagne. On sent que du côté de Reims, là aussi, les tensions sont là et des patients, d'ailleurs, sont transférés avec un mode de transport assez original aussi. Nous savons inventer et être innovant avec un bus de transport en commun. Des patients sont orientés vers Tours ou vers Orléans. Oui, la tension existe, les sujets sont là. Et même si on constate, c'est vrai, peut-être un tassement, en tout cas, par exemple, du côté mulhousien, du nombre d'appels au SAMU, eh bien, les cas graves qui arrivent à l'hôpital sont toujours aussi graves. Et même souvent, des patients hospitalisés nécessitent, dans un second temps, d'être intubés, d'être transférés en réanimation. Donc, la pression est toujours là. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est vrai que nous connaissons cette situation depuis 4 semaines. C'est 4 semaines qui sont extrêmement longues. C'est des 4 semaines qui sont pour le personnel soignant autant de fatigue, de pression, de stress, de peur. Et ça aussi, il faut le gérer au quotidien.
Et vous le disiez, 4 semaines depuis que l'épidémie a commencé dans votre région, ça veut dire qu'on n'est pas encore au pic ?
Je ne le sais pas. Tous les jours, on me pose la même question. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas pourquoi ? Parce que le mode de contamination à Mulhouse a été très particulier. Vous le savez, il a été très dense dès le départ dans une assemblée évangélique. C'était une sorte de bombe à fragmentation qui fait que localement, nous avons une diffusion de la maladie qui est tout à fait singulière et qui n'est pas un modèle classique. Mais par contre, nous avons depuis le début, depuis le 2 mars, date de la première admission en réanimation, bien une montée en charge très rapide. Et après cette montée en charge rapide, une persistance quotidienne du nombre de patients que nous admettons en réanimation en Alsace, c'est environ une 50aine tous les jours. Et nous avons malheureusement aujourd'hui le taux de mortalité le plus fort en France. Ça aussi, c'est terrible pour le quotidien. C'est des familles brisées, c'est des familles qui ne reverront jamais là aussi leurs grands-parents, leurs maris, leurs femmes, parce que très souvent, ce sont aussi des patients très jeunes qui tombent.
Jean Rottner, vous aviez été un des premiers à alerter notamment sur le manque de masques. D'ailleurs, au nom de la région, vous en aviez commandé 5 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de matériel, ça va mieux ? Vous avez réussi à être livré, notamment par les avions cargo arrivant de Chine ?
Alors, s'il peut y avoir une sorte de mieux dans le monde hospitalier, c'est vrai en termes de disposition de masques. Aujourd'hui, c'est plein d'autres choses qui viennent à manquer. Vous savez, quand on est en période de crise, avoir des manques dans sa pratique quotidienne, c'est, C'est pas la bonne chose. Il manque des réactifs, il manque des écouvillons, il manque des surblouses, il manque des protège-chaussures, il manque aujourd'hui des drogues pour endormir correctement les patients qui se sont respirateurs. Il manque des respirateurs. On nous promet des respirateurs maintenant depuis des semaines et des semaines. Nous ne voyons toujours rien arriver. C'est cela qui est pénible. On peut demander à des soignants d'être au front quotidiennement, de se battre, mais quand l'intendance ne suit pas, eh bien, à un moment donné, les choses ne vont pas. Et c'est ça ce que nous sommes un certain nombre, non pas à dénoncer, il ne faut pas rentrer dans la polémique, mais simplement à soulever en disant il faut absolument, mais absolument résoudre ce sujet. Si nous avons été les premiers touchés, nous avons aussi une expérience aujourd'hui. Nous souhaitons faire profiter cette expérience et ce déficit peut-être de matériel vis-à-vis des autres régions qui potentiellement peuvent l'être dans quelques temps. Il faut absolument que le gouvernement prenne en considération ces sujets et qu'il y trouve les remèdes. C'est une question là aussi vraiment de santé publique et de solutions.
Le gouvernement n'en fait pas assez ?
Non, je pense que Olivier Véran en est largement conscient. On échange sur ce sujet. Moi, j'ai une préfète qui est largement consciente de ces sujets, qui les fait remonter aussi. Mais il y a dans la chaîne de soins, dans la chaîne de prise en charge en France, trop de lourdeurs qui font qu'aujourd'hui, bien les réponses n'arrivent pas. Entre une décision du gouvernement et sa réalisation sur le terrain, il y a pour moi trop d'intermédiaires. Il y a parfois des solutions très simples qui pourraient se résoudre de médecin à médecin. Eh bien non, on est obligé de passer par toute une chaîne administrative qui complique les choses. Aujourd'hui, en termes de matériel, c'est vrai qu'il manque encore du matériel et que c'est du matériel indispensable pour protéger nos soignants. C'est ça qui est important pour protéger nos soignants. On ne peut pas continuer à leur faire prendre les risques qu'ils prennent aujourd'hui.
Jean Rottner, un tout dernier mot, au-delà de la crise sanitaire, parce qu'il y a bien sûr aussi la crise économique, comment votre région va aider les entreprises au-delà de ce qui est déjà mis en œuvre par l'État ?
Alors, on a naturellement travaillé avec l'État, on continue à travailler. Moi, je réunis plusieurs fois par semaine l'ensemble des acteurs économiques pour préparer déjà la phase 4, la phase de retour à la normale, de reprise. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lancé un nouveau fonds qui s'appelle Résistance avec la Banque des Territoires, de manière à permettre aux entreprises de type sportif, culturel, à l'ESS, de pouvoir s'en sortir, d'avoir des aides qui peuvent aller de 5 à 10 000 euros pour les entreprises qui comptent jusqu'à 10 salariés et un soutien qui peut monter jusqu'à 30 000 euros pour les associations et les acteurs du secteur non marchand. C'est cela, simplement être à l'écoute, répondre de manière la plus concrète possible à ce secteur économique qui en a bien besoin, qui se pose des questions, qui souffre aujourd'hui. Et c'est aussi des fins de mois pour les salariés qui sont assurés.
Merci beaucoup Jean Rottner d'avoir été mon invité ce soir.
Merci beaucoup à vous.
Voilà l'interview politique d'Aurélie Herbemont que l'on retrouve demain, même heure, sur Europe 1.
Et dans un instant, la suite de votre grand journal du soir avec au programme Nathalie Lévy.
On va regarder évidemment de près comment fonctionnent les associations dans cette période si particulière. La Croix-Rouge, les Restos du Cœur, les bénévoles manquent à l'appel, manquent d'argent également, de moyens logistiques. C'est à 19h30, on leur donne la parole sur Europe 1.
Grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec dans un instant la parole donnée aux associations qui essayent de poursuivre leurs actions pendant cette période de confinement. Mais avant cela, Nathalie, on prend un temps d'avance comme tous les soirs et on regarde ce qui va se passer demain.
Oui, demain la technologie qui vient parfois sauver des vies. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Nathalie.
Confinés dans leur chambre d'EHPAD, quelques anciens vont avoir droit à une drôle de visite, celle d'un robot. J'adore l'idée.
Oui, ben c'est ça. Cutie, robot compagnon, les premiers, une dizaine, sont arrivés dès ce matin dans les Hauts-de-Seine. Ils ont été déposés à l'entrée des EHPAD. Ensuite, le personnel a procédé à leur installation. C'est un jeu d'enfant, Nathalie. Il suffit de les connecter au Wi-Fi pour les voir entrer en action, m'a assuré ce matin Antoine Bataille, le patron de Care Cleaver, la société basée à Roubaix, qui a mis au point ces machines. C'est une start-up. Une vingtaine d'autres robots seront livrés dans les jours qui viennent. Tout le monde en veut, mais tous ne seront, hélas, pas servis.
Alors pourquoi Cutie est-il tant attendu par les personnes âgées ? Quelles sont ses fonctions ?
Bah parce qu'il va leur changer la vie, parce qu'il va soulager leur solitude, hein. Elles qui sont privées en ce moment de visite, grâce à son écran qui fait office de visage, son micro, sa caméra et son haut-parleur, des familles vont pouvoir à nouveau se voir et se parler, certes à distance, mais en direct avec leurs aînés. Et puis, ce cutie, hein, est bourré d'électronique, d'intelligence artificielle. Il a un tas d'atouts pour créer du lien social et même créer une certaine complicité. Contrairement à ses cousins japonais, Nao et Pepper, il n'a pas vraiment l'air d'un humanoïde. Il est monté sur des roulettes. Et du haut, c'est 1m40, il est capable de vous reconnaître, de répondre et de se déplacer quand on l'appelle. Il a réponse à tout d'ailleurs, peut soutenir une conversation, sans compter qu'il est aussi capable de jouer les géos avec des activités. 5 sont proposées par semaine aux EHPAD, comme des quiz, de la gymnastique douce ou encore de la sophrologie.
Ouais, c'est génial. Il est donc promis un bel avenir dans les EHPAD, hein. Même une fois la crise finie, normalement on ne devrait plus pouvoir s'en passer.
Ah bah c'est ça, on risque d'avoir un coup de foudre entre ces octogénaires et ces nouvelles technologies. Ah oui, ouais. Alors pour la petite histoire, Nathalie, sachez quand même qu'à l'origine, ces robots avaient été imaginés justement pour aider les seniors à rester à domicile, un comble, plutôt que d'aller en EHPAD, quand on sait que le lien social à la maison permet de vieillir en bonne santé. La start-up, grâce à une levée de fonds de 1 600 000 euros, avait commencé leur fabrication début 2020, mais n'avait pas pu les livrer, empêchée par la crise du corona. D'où ce geste de solidarité pour distraire les pensionnaires des EHPAD.
C'est génial, ça c'est la belle initiative du moment, au-delà d'une initiative, effectivement. Merci à vous Jean-Pierre Montanet, ça fait un petit peu de bien. Demain dans le monde avec vous Didier François, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On regarde ce soir la pandémie à l'échelle de la planète et cette question qui se pose quand même. Hein. Quand on lit les chiffres de mortalité publiés par certains pays, on ne comprend clairement pas les écarts entre l'Allemagne par exemple, qui semble avoir beaucoup moins de morts que l'Italie. Hein.
Oui, c'est exact. Si l'on s'en tient aux statistiques publiées, on est à ce jour sur un taux de létalité de 0,7% en Allemagne, donc très faible, contre 8% en Italie, extrêmement élevé, avec une moyenne établie autour de 3,6, ça c'est la France, ou de 4%, ça c'est la Chine. Le seul problème, c'est que ces chiffres ne veulent rien dire, ils ne sont pas comparables, en tout cas pas en l'état, car le recueil des données ne s'effectue pas sur des bases statistiques équivalentes. Par exemple, entre la France et l'Allemagne, deux pays voisins et au système finalement assez proche, les chiffres sont communiqués chaque jour par des organismes compétents, plutôt indépendants, l'Institut Robert Koch à Berlin et l'Agence Santé Publique en France, chez nous. Seulement, l'Allemagne réalise en moyenne 70 000 tests de dépistage quotidien, quand la France en est à 10 000, soit 7 fois moins, donc un échantillon a priori plus gravement touché car représentant déjà des symptômes. Donc vous voyez comment, de manière mécanique, sans volonté particulière de dissimulation, vous avez des différences importantes de taux de létalité entre deux pays. Par ailleurs, les capacités à tester à grande échelle permettent d'isoler plus vite les personnes contaminées, donc de limiter la contagion pendant la phase d'incubation. Du coup, ça a des effets de limitation sur la mortalité. Et puis ça permet d'avoir un confinement plus ciblé, ce qui a des effets bénéfiques cette fois pour l'économie. C'est la méthode sud-coréenne qu'applique l'Allemagne.
Eh oui, avec une population quasiment à la hauteur de celle de la France. Alors voilà pour l'Allemagne, la France qui applique plutôt la méthode chinoise, elle. Or, eh ben, il y a des interrogations, et c'est peu dire, hein, aujourd'hui, sur la réalité des chiffres de mortalité en Chine.
Oui, effectivement, 3295 morts officiels dans toute la Chine sur un pays d'1,4 milliard habitants. C'est un taux de mortalité qui semble étonnamment faible au regard des 10 000 morts en Italie ou des 7 000 morts en Espagne. Il y a donc des doutes sérieux dans la communauté scientifique sur la réalité de ces statistiques. L'hypothèse étant que tous les décès par comorbidité aient en fait été attribués à la maladie associée et pas au Covid-19. Seulement, cela, c'est très difficile à prouver parce que les autorités chinoises ont fait arrêter et interner tous les médecins qui avaient lancé l'alerte au début de la crise.
Merci beaucoup Didier François. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.
Europe 1.
À suivre dans la prochaine demi-heure avec vous Nathalie Lévy.
Et oui, on va s'intéresser de près ce soir aux associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge et tant d'autres. Manque de bénévoles, manque d'argent, de moyens logistiques, c'est la grosse galère pour elles. C'est un euphémisme. On va leur donner la parole ce soir. Hashtag Radio Ouverte. Ça se passe sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Il est 19h30 tout pile sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
La barre des 3000 morts du coronavirus dépassée en France. 418 nouveaux décès recensés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. C'est la plus forte augmentation sur une journée depuis le début de l'épidémie. Près de 21 000 malades hospitalisés. Très fort afflux en réanimation. Plus de 5 000 patients. À retenir également ce soir, le pont aérien lancé. 10 millions de masques sont arrivés en France aujourd'hui. C'est la deuxième cargaison en provenance de Chine. Les risques de la chloroquine. Les autorités alertent sur des cas de complications cardiaques chez des patients qui en ont pris sans surveillance médicale. Des discussions engagées sur le bac 2020. La formule retenue sera dévoilée à la fin de la semaine avec probablement la prise en compte d'un contrôle continu. Le mondial de l'automobile prévu en octobre à Paris est à son tour annulé, en tout cas dans sa forme habituelle. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou placé en quarantaine préventivement. Un employé de ses services a été testé positif. Et puis les Français scotchés devant la télé en cette période de confinement. Vous avez regardé en moyenne 4h29 par jour le petit écran au mois de mars. C'est un record d'audience. Les niveaux d'audience des journaux de 20h sont notamment au plus haut. Pour s'informer, la radio, c'est bien aussi. Hein.
Oui, c'est bien. Et puis, c'est moins entêtant. Et on a des voix très agréables. Vous, surtout Sébastien Krabs. Donc,
on peut faire
demain.
D'autres choses en même temps.
En même temps, exactement. Voilà. Hein. Donc, allons-y. Merci, Sébastien. Demain, 18h, pour le premier rendez-vous, évidemment, d'info avec vous. Merci. Anissa, beaucoup de vent demain. Un peu comme aujourd'hui, en tout cas, en région parisienne.
Oui, effectivement, si vous avez prévu d'aérer demain les maisons, les portes risquent de claquer, en tout cas sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, la Bourgogne et la vallée du Rhône. C'est le vent de nord-est qui souffle dès le lever du jour et qui va se généraliser sur toute la moitié nord dans l'après-midi. Il va souffler assez fort ce vent de nord-est, en rafale jusqu'à 80 km/h, même dans les terres, sur toute la moitié nord. Donc vous l'avez compris, le vent souffle. Et en même temps, le soleil brille. Donc ça reste une journée très agréable avec un temps sec. Dans le sud-ouest et le long de la Méditerranée, nous aurons des nuages qui pourront nous apporter quelques petites averses, notamment sur la Corse. Les températures, elles sont toujours très froides le matin à cause de ce vent de nord qui souffle moins 4 à Montluçon et Clermont-Ferrand, moins 2 à Saint-Étienne, 2 degrés à Paris et Lyon, 4 à La Rochelle, 10 pour Nice. Et puis dans l'après-midi, nous avons un léger redoux dans le nord avec 10 à 13 degrés et il fait bien meilleur dans le sud avec 14 à 17 et même jusqu'à 18 dans le sud-ouest.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et ce soir, c'est une antenne solidaire que vous nous proposez, Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h, vous avez voulu donner la parole aux associations qui subissent de plein fouet les conséquences de cette pandémie et de ce confinement. Vous pouvez, si vous aussi vous faites partie d'une association et que vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 39-21. Je vous rappelle que tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur. Et puis vous pouvez également transmettre vos messages sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte jusqu'à 20h.
Oui, voilà, jusqu'à 20h, on va prendre évidemment toutes ces associations, enfin le maximum en tout cas. On va commencer avec vous, Henriette Stenbeck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du Secours Populaire. C'est 9 millions de personnes qui sont en extrême pauvreté, qui ont disparu des radars nationaux avec ce Covid-19. Comment faites-vous au quotidien?
Alors, ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on fait toute l'année. Mais on trouve qu'on est vraiment bien seul. Concrètement, ça veut dire que nous continuons de collecter des produits, bien sûr, que nous collectons de l'argent et nous avons un besoin considérable de moyens parce que toutes les activités qu'on mène entre mars et juin, pour l'instant, on ne peut pas les mener et ça veut dire qu'on a un manque à gagner financier important. Ouais. Donc, on fait un appel aux dons, aux personnes morales, aux personnes physiques, à tous ceux qui ont possibilité de, aux structures, qui veut. Vraiment, on a besoin d'argent.
D'accord. Alors, le besoin d'argent, c'est le premier sur la liste, on a compris. Après, en termes de bénévoles et donc de bras.
Alors, en termes de bénévoles, de bras et de tête, nous avons des centaines de personnes qui se proposent dans les fédérations, mais de toute façon, on en a besoin de plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tellement de personnes? On a besoin de tellement de personnes parce que pour préparer les colis qui vont pouvoir être remis sur rendez-vous aux personnes avec lesquelles donc des rendez-vous ont été pris et qui vont leur permettre de manger pendant une semaine ou pendant 15 jours, il faut des gens qui sont derrière, c'est-à-dire à l'intérieur, et qui organisent les cartons, les cabas, enfin les différents réceptacles. qui permettent de calibrer ce qu'on peut donner en fonction de la taille de la famille. Et ensuite, sur ces à l'occasion de ces rendez-vous, les personnes qui peuvent venir viennent chercher ces produits et les emmènent chez elles. En même temps, elles échangent quelques mots, il y a un sourire, il y a une rencontre, il y a un café. On a établi un contact humain. Mais pour les personnes qui sont chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes handicapées, mais ça peut être aussi des mamans qui ont des enfants autour d'eux, autour d'elles, et qui ne peuvent pas sortir. Ce sont des personnes qui vont les leur porter à domicile.
Et alors justement, j'entends ce que vous dites, Henriette Selmec, comment ça se passe au Secours Populaire? Ces personnes qui viennent porter des repas, du matériel, etc., elles sont équipées de masques, de liquide hydroalcoolique, de gants, vous n'en manquez pas?
Le liquide hydroalcoolique commence à arriver. Nous avons reçu le début des commandes qu'on a passées. Et on les expédie dans l'ensemble de nos fédérations. Je ne peux pas vous dire que tout le monde en est, mais normalement, il y a effectivement de quoi protéger les bénévoles qui reçoivent et qui vont. En ce qui concerne les masques, nous sommes dans la même situation que d'autres. D'accord. C'est-à-dire que nous en avons fort peu, quelquefois pas, mais qu'il nous est promis que nous allons recevoir parce qu'on est sur la liste de ceux qui vont en être attributaires. En termes d'humanité, nous pouvons faire des miracles, mais en termes de production,
Bien sûr, bien entendu. Voilà. On a entendu votre appel. On a entendu donc l'argent en priorité des dons, donc les appels aux dons qui sont évidemment une nécessité absolue, les bras et les têtes, vous l'avez dit.
Les têtes. Pourquoi? D'abord parce que c'est mieux de faire fonctionner sa tête, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui peuvent difficilement se déplacer.
Mais bien sûr.
Parce qu'elles ne sont pas en condition qui le leur permettent, et puis c'est compliqué. Mais en revanche, elles peuvent de chez elles appeler d'autres personnes qui sont isolées, qui n'ont personne qui les appelle, qui n'ont personne qui les soutiennent, et établir une chaîne de relations entre les uns et les autres par le téléphone et par l'échange de paroles humaines entre les uns et les autres.
Cette chaîne humaine qui est une nécessité absolue, exactement. Merci beaucoup Henriette Stenbeck, on a entendu, on a relayé votre message ce soir au Secours Populaire. Voilà les besoins là, les premiers en tout cas.
Secourspopulaire.fr pour verser de l'argent. Secourspopulaire.fr.
Et ce sera aussi sur le site d'Europe 1. Merci beaucoup. On est en ligne avec Isabelle depuis Montpellier. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Vous avez monté, vous, une association pour les malades d'Alzheimer.
C'est ça.
Alors, en quoi ça consiste précisément et quels sont vos besoins?
Alors écoutez, aujourd'hui on intervient principalement donc pour toutes les pathologies neurodégénératives, avec évidemment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et nos besoins actuels sont surtout pour nos intervenants qui sont sur le terrain, confrontés complètement donc à la problématique et chez le bénéficiaire, donc pour obtenir des masques et du gel, parce qu'aujourd'hui on en manque vraiment cruellement.
Vous, cette association, elle date de quand? Elle date de la pandémie?
2014.
Ah, de 2014.
Alors, on l'a ouverte en 2014.
D'accord, d'accord. Donc, les masques, pour aller évidemment au contact de ces personnes qui sont isolées aussi, et d'autant plus isolées que le confinement les y oblige et les contraint. En termes de main d'œuvre et de personnes qui répondent présents pour aller les visiter, vous avez vraiment
des volontaires? Alors de ce côté-là, c'est vrai que nous avons quand même suffisamment de demandes. Les gens sont quand même très solidaires, et puis on a une équipe au top sur le terrain qui continue à maintenir sa fonction, et on les remercie vraiment parce qu'ils font un métier vraiment formidable. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui nous manque cruellement, c'est de pouvoir les protéger, eux qui interviennent à domicile, pour pouvoir aussi protéger nos bénéficiaires parce qu'ils ont besoin de nous.
Bien sûr. Et comme on l'a entendu avec vous, donc, et puis, donnez-nous le nom de votre association, pardonnez-moi.
Alors, c'est l'association Tout Alzheimer.
Tout Alzheimer, d'accord. Alors que ce soit Tout Alzheimer ou au Secours Populaire, on l'a compris, en tout cas, la solidarité bat son plein. Les candidats, les volontaires sont là pour aider, et aider plus que jamais. Merci beaucoup, Isabelle. On va se retrouver dans un petit instant avec d'autres associations, notamment Le Refuge, avec près une perte de 60% des dons pour cette association, précisément. Et puis d'autres, on continue comme ça à vous donner la parole au 3921 sur Europe 1. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Un grand journal solidaire ce soir, puisque Nathalie Lévy, vous donnez la parole à ces associations qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie et du confinement, avec un manque de bénévoles, un manque de matières premières. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez une association que vous voulez nous parler ce soir, si vous voulez faire entendre votre message et votre appel, ça se passe au 39-21. Et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Oui, on est en ligne avec Nicolas Noguier. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président de l'association Le Refuge. On va rappeler que Le Refuge, c'est son objectif, sa mission, c'est d'offrir un hébergement, un accompagnement, hein, aux jeunes LGBT victimes d'homophobie ou de transphobie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'ai vu que vous aviez perdu 60% des dons, ce qui est colossal et dramatique.
Oui, c'est vrai. C'est en comparant mars 2020 à mars 2019, on est à moins 60%. 60% de dons en moins, alors que notre activité est financée à 80% de dons. C'est vraiment très difficile pour nous. C'est sûr que les donateurs ont une perte de confiance en l'avenir. Ont peut-être des difficultés même professionnelles ou économiques. C'est vrai que l'horizon en fait ne pousse pas à faire des dons, et on subit malheureusement de plein fouet la baisse de dons, comme beaucoup d'associations.
Ouais. Sauf que sur les dons, effectivement, vous l'avez dit, il y en a normalement qui devraient pouvoir continuer, parce qu'il y a, à part l'inquiétude effectivement du futur, il y a pas de raison normalement qu'ils les en empêchent concrètement. Sur le plan des jeunes que vous hébergez, aujourd'hui, on est à quel niveau, à quel taux?
Aujourd'hui, on est vraiment, nous, complets à 100%. On a 266 jeunes hébergés et accompagnés dans toute la France. Mmh. 266 jeunes qu'on a pu sécuriser, écouter. On leur offre une écoute quotidienne. Le travail social continue. On continue aussi nos missions d'assistance et nos missions d'aide alimentaire. On est là pour eux au quotidien. On gère aussi les urgences, puisque tous les jours, on a de nouveaux jeunes qui nous appellent. Des jeunes qui ne trouvent pas.
Et oui, et alors ces jeunes qui vous appellent chaque jour et que vous ne pouvez pas accueillir parce que vous n'avez plus de place ou plus les moyens, qu'est-ce que vous leur proposez à la place? Comment vous les orientez? Comment vous les aidez?
On arrive à travailler avec des hôtels partenaires de l'association, d'accord, des hôtels solidaires qui ont malheureusement plus de clients avec la situation actuelle, et qui en a des hôtels qui nous offrent des places. C'est énorme pour nous.
Bien sûr.
On essaye aussi, on travaille beaucoup avec bien sûr les services sociaux, les CCAS, le 115. Il y a une vraie solidarité qui est née de cette crise, heureusement. On espère qu'elle va perdurer. Mais en tout cas, on est là vraiment au quotidien pour les jeunes. Nous, nos missions, elles sont renforcées, je dirais.
Bien sûr. Donc on l'entend là encore chez vous, la solidarité, clairement avec un grand S, malgré les difficultés, malgré le confinement. Juste vos besoins, la prioritaire aujourd'hui, sans doute au niveau des dons, au niveau de l'argent. C'est vraiment ça aujourd'hui? C'est là où vous appelez évidemment à l'aide?
C'est vrai que c'est une grosse difficulté pour nous et qui s'annonce, et c'est notre principale priorité. Après, on a aussi besoin on est présent un petit peu partout dans toutes les grandes villes de France, donc s'il y a des auditeurs qui peuvent nous aider aussi pour l'aide alimentaire ou qui ont des livres ou des jeux de société pour les jeunes, pour un petit peu pour rompre l'isolement. C'est vrai que c'est une solidarité de proximité aussi qui est importante pour nous aussi.
Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir, Nicolas Noguier. Le Refuge, avec un site internet?
Oui, tout à fait, le-refuge.org.
Voilà, donc n'hésitez pas, pour toutes ces associations qui en ont besoin, et là dans le cas du Refuge, n'hésitez pas, donc les dons, le site internet qui sera relayé. Merci à vous. Théophile Cossa, bonsoir. Merci. Bonsoir Théo. Bonsoir, on a évoqué déjà la Croix-Rouge, le Refuge, autre association en difficulté, celle qui s'occupe des SDF. Avec les effets des mesures de confinement, eh bien ces sans-abri vivent un véritable calvaire, hein.
Oui, rendez-vous compte, il y a l'absence de toit, mais aussi l'accès à la nourriture. Avec le confinement, plus personne dans les rues, impossible de faire la manche pour se nourrir. Et puis il y a les problématiques d'hygiène, fermeture des douches et des toilettes publiques, des cafés. Et face à cette situation inédite, le tissu associatif a bien du mal à répondre aux besoins élémentaires des SDF, alerte Laurent Eza, président fondateur de l'association Action Froid.
On continue tant qu'on peut avec les bras qui sont à notre disposition. On mise beaucoup sur la nourriture parce que il faut bien qu'ils mangent. Vous avez personne qui vient leur donner de l'argent. Vous avez les associations qui sont en diminution constante. On a réduit les effectifs. Ils se réduisent de même parce que j'ai quand même des bénévoles qui ont été infectés. On diminue aussi le temps de présence avec les sans-abri pour les protéger de nous. On concentre aussi sur les produits d'hygiène, même si l'accès à l'eau est super compliqué. On passe face à une crise quasi humanitaire.
Alors pour faire face, Action Froid met en place des maraudes et des collectes sans contact pour récupérer des denrées et on appelle à tous ceux voulant bien aider, même à distance, en préparant des repas pour les sans-abri, par exemple.
Et puis il y a la délicate question des places d'hébergement.
Et oui, c'est ce que demandent beaucoup d'associations. Plus de places d'hébergement pour aller vers un confinement total. Et puis des masques pour protéger personnel et sans-abri, car les centres peuvent vite devenir des foyers de propagation, tout comme les gymnases. Et les SDF sont un public à la santé souvent fragile, donc très exposé. Actuellement, il serait entre 600 et 900 contaminés, selon les recensements du ministère du Logement et du monde associatif. Alors il y a bien des mesures prises par le gouvernement, hein. Ouverture de centres d'hébergement médicalisés pour accueillir les sans-abri atteints par le Covid-19, mais ne nécessitant pas une hospitalisation. Mobilisation de chambres d'hôtel aussi, plus de 5000 places supplémentaires qui s'ajoutent aux 157 000 places recensées dans l'ensemble des centres d'hébergement d'urgence en France. Pas assez pour Florent Guéguin, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Selon lui, il faudrait ouvrir des dizaines de milliers de places supplémentaires pour proposer un confinement généralisé.
Merci beaucoup Théophile Cossa. Des dizaines de milliers de places supplémentaires. C'est compliqué, on le voit, pour les associations. On continue de leur donner la parole ce soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Tout de suite.
Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec une antenne solidaire ce soir, Nathalie Lévy. Nous donnons la parole aux associations qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie et du confinement avec un manque de bénévoles, un manque de produits. Ils passent des appels au secours ce soir sur Europe 1. Ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre si vous êtes vous aussi membre d'une association. Et on est avec Patrice Blanc. Bonsoir Patrice Blanc, vous êtes président des Restos du Cœur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Évidemment, on l'entend ce soir, nombre d'associations qui sont en difficulté aujourd'hui, compte tenu de ce confinement. Comment ça se passe chez vous? Il y a des Restos du Cœur qui continuent de rester ouverts dans cette période?
Oui, on a dû évidemment se réorganiser localement en tenant d'abord compte de l'âge d'une partie de nos bénévoles, hein, puisqu'on a demandé, pour respecter les consignes sanitaires, aux bénévoles de plus de 70 ans de ne pas être en première ligne, au front. Cela étant, hein, ils peuvent exercer un bénévolat depuis chez eux par le biais du téléphone. Mmh. Et on a lancé des appels à bénévoles qui ont eu un grand impact. Hein. Il y a dans 8 jours, on a reçu autour de 10 000 candidatures. Mmh.
Donc il y a une solidarité
manifeste.
Je crois que vous êtes entre la campagne d'hiver et celle d'été là, hein, pour
oui,
cette période là,
voilà,
pour les Restos du Cœur. Et normalement vous réduisez la voilure, si j'ose dire, à cette période là.
Tout à fait. Normalement, on avait prévu de ne redémarrer que début avril, que de la semaine prochaine, dans la plupart des centres. Donc dans un certain nombre d'endroits, ben, on a anticipé, ce qui fait qu'aujourd'hui on a autour de 400 centres qui sont ouverts. Donc ça n'est pas encore le chiffre normal pour l'été, mais certains ont démarré plus vite. Et puis, on a des centres sous forme de drive, on peut dire, un peu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... oui, vers Carcassonne, je crois, hein, qui rouvre dans l'Aude, qui rouvre en mode drive pour limiter les contaminations, c'est ça?
Absolument. On incite à préparer les paniers repas à l'avance, connaissant la taille de la famille qui va venir. Et comme ça, ça limite vraiment le contact entre les bénévoles et les personnes qu'on accueille. Ouais.
Alors, est-ce que vos bénévoles, en tout cas, sont équipés de masques, de gel hydroalcoolique, de gants?
Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. On n'a pas de difficulté sur les gants et le gel hydroalcoolique. Mmh. Par contre, on a un vrai problème encore sur les masques. Localement, on peut avoir des dons de masques qui ont été faits par telle ou telle collectivité locale. Mmh. Mais actuellement, c'est une vraie difficulté. Donc, on cherche à se procurer des masques et... effectivement, c'est un vrai risque, comme beaucoup de monde d'ailleurs.
Oui, bah évidemment. Et on sait qu'ils sont réservés en priorité aux soignants, et c'est bien normal.
Absolument, c'est bien normal.
Bien sûr. Juste un mot encore, Patrice Blanc, on l'a compris, les masques, en termes de produits, en termes de besoins essentiellement,
En termes de produits alimentaires, on avait fait la collecte nationale début mars. Donc, on a des stocks qui sont globalement suffisants.
D'accord.
Par contre, on a beaucoup de dépenses supplémentaires qu'on doit faire liées au Covid pour les transports, puisqu'on fait aussi des transports à domicile pour les personnes isolées. Donc, on a besoin d'argent. Si vous voulez, le soutien financier est utile.
Vous arrivez aujourd'hui à chiffrer l'impact pour les Restos du Cœur?
Non, pas encore. Simplement, on sait déjà que du fait du démarrage du Covid dans les quatre premiers départements les plus touchés, on n'avait pas fait la collecte début mars. Ouais. Et là, c'est l'équivalent de 500 000 euros qu'on a perdu. Ouais. Donc, on doit acheter à la place. Et puis, on commence à faire les additions des dépenses supplémentaires. Mais ça se chiffrera sur plusieurs millions d'euros, hein, c'est évident.
C'est évident. Et on souligne quand même l'initiative du côté de la SNCF, si je ne fais pas erreur, l'établissement de la gare de Lyon à Paris, qui avait livré au Resto du Cœur 600 repas. Hein. C'était il y a quelques jours.
D'initiatives
comme ça.
C'est ça. Voilà, localement qui sont prises, soit par des restaurants, soit par des entreprises, des partenaires, on a certains qui nous fournissent en sandwich, par exemple, pour les distributions pour les gens de la rue, en salade froide, puisqu'on doit... arrêter l'essentiel de nos repas chauds, donc toujours de façon à limiter le temps de contact.
Bien sûr. Merci à vous, en tout cas, Patrice Blanc, président des Restos du Cœur. On espère évidemment que le message sera passé, que la solidarité continuera à battre son plein. Voilà. Merci à vous. On va écouter d'ailleurs, à côté de toi, c'est le dernier titre des Enfoirés, cette édition 2020. Écoutons. Moi,
pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir.
Tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin.
Mais je dis, mais je dis, mais je dis, on verra demain. Car
si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main.
Si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main.
À côté de toi, les Enfoirés sur Europe 1 avec ce titre 2020 pour ce spectacle 2020 et soutenir les Restos du Cœur. D'ailleurs, vous pouvez acheter l'album des Enfoirés 2020, l'album ou le DVD. À chaque achat d'un album ou d'un DVD, c'est 17 repas pour les Restos du Cœur. Donc rendez-vous sur toutes les plateformes habituelles ou sur lesenfoirés.fr. Ah oui, ça fait 30 ans, hein, 30 ans désormais que ces célébrités comme ça interprètent ces titres, ces chansons pour le collectif des Enfoirés au profit de l'association caritative Les Restos du Cœur. On va poursuivre cette soirée solidarité avec Caroline. Bonsoir à vous Caroline.
Bonsoir.
Vous êtes à Annecy je crois et c'est vous ça. Avez monté une association qui s'appelle Les Putains de Guerrières. Expliquez-nous votre mission.
Alors, l'association Putain de Guerrière, c'est une association qui lutte contre les violences conjugales, qui peut toucher, qui touche surtout les femmes, mais il y a aussi parfois des hommes qui sont touchés par ce fléau. Donc, on essaie de les guider et de les orienter et de les aider dans ces situations-là, donc que ce soit pendant ou après dans leur démarche également.
Bien sûr. Alors évidemment, là, depuis le confinement, j'imagine que vous avez eu des appels au secours en plus encore.
Alors des appels au secours plus encore, on n'en a pas encore en grosse quantité. Par contre, on se trouve devant des situations qui sont un petit peu complexes à gérer. Parce que par exemple, vous savez que le 39-19 a été réduit un peu au niveau des appels. Ils ne prennent plus d'appels après 19h. La police est débordée. La plateforme justement pour porter secours aux personnes qui sont victimes de violences sont débordées également. Donc on se trouve devant des situations qui sont un petit peu complexes avec des forces de l'ordre qui ne réagissent pas ou qui ne peuvent pas réagir également. Et puis avec la mise en place des mesures qui ont été proposées notamment avec les pharmaciens, on se retrouve encore une fois devant quelque chose d'un petit peu compliqué à mettre en place puisque les pharmaciens ne sont pas au courant mesure. On a eu une situation hier soir où on nous a alerté en Haute-Savoie d'ailleurs en plus, un pharmacien qui n'était pas au courant de cette mesure, une femme qui est venue demander de l'aide, donc il a quand même appelé le commissariat de sa ville, mais ils ne se sont pas déplacés parce que pas au courant non plus. Donc on se trouve devant des situations complexes.
Eh oui. Je ne sais pas si vous avez écouté Marlène Schiappa, elle était l'invitée d'Europe 1 dimanche matin, notamment Mickaël Darmon, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle annonçait la mise en place de premiers points éphémères qui seront installés, là pour commencer, hein, mais c'est seulement pour commencer en région parisienne, dans les centres commerciaux, pour accueillir les femmes victimes de violences en temps de confinement. C'est une bonne initiative, si ça se diffuse et
Nous, ce qu'on a peur, c'est que cette initiative-là, qui en effet aurait pu être une bonne initiative, ça mette un peu plus ces femmes-là dans une situation de confinement, puisque ces mesures ont été annoncées en fait à la télé, à la radio ou autre. Donc les conjoints violents écoutent aussi la télé. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir certainement un petit peu plus de drive et un peu plus de femmes qui vont rester bloquées chez elles. Il aurait fallu peut-être communiquer en fait via les associations locales ou les associations de terrain. Et faire passer cette information de cette façon-là. Pas à grande échelle, parce que là, elles sont encore plus en danger. Là, c'est encore plus compliqué. Elles peuvent déjà pas nous appeler là en ce moment, parce que à cause de ce confinement. Donc là, imaginez un petit peu le résultat.
Plus 30% en une semaine de violences conjugales sur l'ensemble du territoire. C'était des chiffres là il y a quelques jours. Le ministre de l'Intérieur a annoncé aussi la mise en place d'un nouveau système d'alerte, vous l'avez dit, en pharmacie. Marlène Schiappa, donc sur ces points en centre commerciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire alors là aujourd'hui dans cette période très particulière?
Que ce soit au niveau de toutes les personnes qui écoutent, si en effet vous avez un voisin ou quelqu'un autour de vous qui est victime de violence, vous appelez le 17, vous les harcelez, vous appelez le 17, vous passez par la plateforme, vous insistez, vous ne vous arrêtez surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Quitte à nous appeler après, on prend des fois le relais aussi quand parfois les voisins n'arrivent pas à faire se déplacer les forces de police. On a l'habitude d'utiliser la plateforme. Et pour la première fois, on s'est retrouvé bloqué. Voilà. Donc là, en fait.
Non, c'est juste que malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Mais on a entendu en tout cas votre message. On a entendu aussi vos craintes et on les diffuse. On alerte aussi parce que, bien entendu, les violences conjugales, mais aussi les violences, j'allais dire, contre les enfants dans ces conditions difficiles de confinement. On alerte et on relaie tous ces témoignages sur Europe 1. Merci beaucoup, Caroline, pour cette association Putain de Guerrière. Et on entend ces applaudissements chaque soir à 20h, les voilà. On les écoute et on voit qu'ils sont de plus en plus nourris. Pour les soignants, pour les commerçants, pour les éboueurs, pour tous ceux qui travaillent et qui nous permettent d'avancer tous les jours un peu plus après ces quasiment 15 jours de confinement. On se retrouve demain soir, 18h-20h, pour un nouveau grand journal du soir avec toute l'équipe en régie. Ils sont là chaque soir pour œuvrer. On est là, nous aussi, chaque soir plus confortablement dans nos domiciles pour vous informer. On vous remercie tous de votre fidélité. On les remercie eux. Salut à tous, très belle soirée.